Radio Barque, donc, notre troisième partie avec Jean-Marie pardon, Fabre, président audois de la Fédération des caves, des vignerons indépendants.
C'est exact.
Alors, est-ce que, pour, au niveau du vocabulaire, pour remettre un petit peu les choses dans leur clarté, ça veut dire que ce sont les gens qui vinifient en cave particulière, c'est bien ça le distinguo par rapport à la coopération ?
C'est ça, je crois que la production viticole est faite par deux types d'acteurs, des gens qui mettent en œuvre eux-mêmes leur production, la transforment, la commercialisent, c'est ce qu'on appelait les caves particulières, par distinguo au début de ce dernier siècle de la coopération agricole, et ici en particulier des coopératives de vinification, où là effectivement on a des producteurs de raisins qui vont mettre en commun dans un outil mutualisé leur production et qui ensuite vont confier à la cave la partie de la transformation, et pour certaines caves en assureront pas la commercialisation ou la transféreront avec des outils, soit des coopératives de second niveau, soit des négociants.
Quelle est la part aujourd'hui, par exemple dans l'Aude, on va parler de chez nous, entre la coopération et les vignerons indépendants ?
Alors d'abord, à eux deux, c'est 100% de la production viticole de ce département, et ça rassure. Les vignerons indépendants, si on doit retenir quelques chiffres, c'est à peu près 35% de la production, un petit peu plus de 40% des surfaces. Et si on le ramène au chiffre d'affaires, 56-57% du chiffre d'affaires de ce département. Et nous sommes présents dans toutes les communes viticoles du département, qu'on soit à l'ouest, à l'est, au nord, ou comme moi, au sud du département, proche des Pyrénées-Orientales.
Oui, vous êtes sur le cru Fitou, vous ?
Moi, je suis sur la commune de Fitou, j'allais dire la plus catalane des communes audoises. Et en tout cas, comme son nom l'indique, celle qui a été frontière pendant longtemps entre le domaine d'Aragon et le Royaume de France.
Voilà, et le cru Fitou, il faut le rappeler, c'est la plus ancienne appellation, je crois, dans notre département, ou dans la région même.
Oui, c'est la plus vieille appellation à main sec de la région Occitanie aujourd'hui, Languedoc-Roussillon avant-hier, et qui a été reconnue après-guerre en 1948, après Cassis et Châteauneuf, qui avaient, elles, été reconnues juste avant-guerre.
Oui, voilà, un point d'histoire. Alors, vous disiez, Jean-Marie Fabre, que le chiffre d'affaires est majoritaire, donc, de la part des vignerons indépendants.
Oui, tout à l'heure, j'écoutais l'intervention sur l'Europe Finance l'Aude, avec beaucoup de pertinence. Effectivement, la particularité des vignerons indépendants, c'est qu'ils, souvent, commercialisent la totalité de leur production et pour plus de 80% en bouteille. Donc le chiffre d'affaires qu'on avance souvent de la ferme agricole ou viticole de cette région n'est pris qu'au sens brut de la production première. Donc effectivement, c'est comme si on considérait que Airbus ne pouvait quantifier son chiffre d'affaires que sur la quantité d'acier, de composants électroniques qu'il achetait et pas sur la valorisation du produit fini suite à transformation. Et c'est une erreur. Parce que le chiffre d'affaires que viticole dans cette région, il est de un petit peu plus de 15 milliards d'euros.
En région Occitanie.
Comment
vous avez dit ?
Je dis 15 milliards d'euros pour la sphère agricole,
oui.
Et il est de 9,5 milliards d'euros pour la sphère viticole. Ça veut dire, une fois qu'on commercialise un produit qui n'est pas juste la transformation d'une récolte, d'une cueillette en produit de base, mais qui ensuite est conditionné et donc commercialisé. Et donc, aujourd'hui, si on prend notre département audois, c'est 4 millions d'hectos, 3,8 millions selon les millésimes, donc ce qui représente en moyenne entre 700 et 800 millions de cols, de bouteilles, qui sont commercialisés, ce qui représente un chiffre d'affaires audois pour la production viticole autour des 2,5 milliards. Donc c'est important de mettre ça en perspective parce que effectivement, les aides structurantes comme elles sont employées souvent par l'administration, en tout cas les aides au développement pour notre secteur d'activité, qui ne sont pas des aides à la production, ce qu'a refusé le secteur viticole depuis longtemps à fort juste titre, sont des aides qu'il faut aussi mettre en parallèle de ce chiffre d'affaires-là, qui est la réalité de l'économie viticole départementale.
Alors Michel Santo faisait remarquer tout à l'heure, ou rappelait plus exactement, l'importance de l'aide de l'Europe, des subventions européennes, et bon, ça remonte loin d'ailleurs, mais on s'aperçoit que la difficulté ou la coexistence reste difficile, et de temps en temps, bah, on voit encore des vignerons qui vont à la frontière espagnole et qui rouspètent contre les importations espagnoles. Donc quel est votre regard justement sur ce fonctionnement de l'Europe, Jean-Marie Fabre ?
On aborde plusieurs sujets sur votre question. Il y a les règles qui, parfois, au sein de l'Union européenne, sont différentes, hein, à la fois parce que nous avons un cadre social, parce que nous avons des exigences environnementales, parce que on a un socle commun et que chaque État membre peut être plus vertueux dans l'application des règles européennes. Et qu'effectivement, on voit bien que le monde agricole et viticole, souvent, quand il s'exprime sur ces sujets-là, considère que, dans une concurrence internationale, les règles plus vertueuses que l'État français souhaite mettre en place pour la production de ces différentes composantes agricoles et le vin en particulier, sont souvent beaucoup plus élitistes, beaucoup plus vertueuses que les Espagnols, les Italiens en Europe, et bien évidemment que les autres pays producteurs dans le monde, et qu'à ce titre, il est parfois difficile de faire valoir une forme de compétitivité loyale.
Donc ça crée une concurrence déloyale, disons les choses.
Oui, on peut considérer que, au moins au sein de l'Union européenne, parce que les règles appliquées par chaque État membre sont différentes, il y a effectivement une compétitivité qui est faussée, en tout cas au regard du cahier des charges de base, j'allais dire, de la mise en œuvre de la production. Après, la différence, elle se fait souvent sur sa capacité à valoriser les efforts et les particularismes de notre production. Et c'est un débat secondaire, mais effectivement qui peut parfois échapper dans l'analyse première de la mise en œuvre de notre production. Donc ça, c'est le premier point. Le regard que je porte sur l'Europe aujourd'hui, il est différent de ce qu'on peut entendre de manière assez réductrice lorsqu'on considère que souvent ce qui nous tombe dessus vient de beaucoup plus haut. D'abord parce que ce qui vient de plus haut, c'est aussi nous, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas une forme de souveraineté européenne qui impose aux États une vision qui n'est pas décidée par ces mêmes États. Et aujourd'hui, avec le trilogue, Parlement, Commission et Conseil, nous avons quand même la possibilité d'intervenir à de nombreux niveaux. Et que la France, en matière agricole en particulier, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est quand même le leadership européen, et que, à ce titre, comme l'Allemagne pour l'industrie ou jusqu'à maintenant le Royaume-Uni pour les finances, doit avoir une voix forte qui doit engendrer derrière un mécanisme de soutien et d'accompagnement à sa performance sur ce secteur-là qui est à la hauteur de ses enjeux. À nous de faire entendre les bons schémas, les bons messages et de trouver les bons leviers du développement.
Alors à propos d'Europe, eh bien, il y a ce fameux Brexit qui inquiète beaucoup de gens et qui inquiète notamment les vignerons s'il se fait tel qu'on l'annonce.
Oui, le Brexit, en tout cas, permettez-moi de ne pas juger des stratégies politiques, mais il est annoncé déjà depuis deux ans et demi.
Et repoussé sans cesse.
En tout cas, la démocratie s'est exprimée en Angleterre. J'ai mon avis sur cette position, mais je la respecterai. Il n'empêche que lors de la venue ici, dans l'Aude, du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, et de Stéphane Le Foll, j'avais déjà alerté sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir une sortie de l'Union du Royaume-Uni sans qu'il n'y ait, de la part de la France, un travail de fond à mener sur des accords stratégiques sur ce secteur-là. Je m'explique. La France a plusieurs secteurs de performance, ils ne sont pas nombreux. Trois sont excédentaires commercialement parlant. Le premier, c'est l'aéronautique. Le second, c'est la ferme viticole. 14 milliards d'euros d'excédent commercial. Donc je pense que quand un État doit réfléchir à la sortie du Royaume-Uni, il doit aussi privilégier ses intérêts et donc ses secteurs d'activité stratégiques. Il m'a été répondu à l'époque par le Premier ministre que la France n'aurait pas une position divergente de l'ensemble des autres États et des 27 États membres de l'Union, ce que je peux entendre politiquement, mais qui me semble être difficile à entendre lorsque on se place dans une position franco-française dans ce secteur qui est le mien. Je pense qu'on peut toujours avoir le plan A et puis le plan B. Et qu'on arrive dans quelques semaines au Brexit, le 29 mars. Il semblerait, à part qu'on repousse un peu, mais repousser pour quoi faire, ça c'est une question plutôt politique. Mais si le Brexit a lieu le 29, on sera sur un Brexit avec ce qu'on appelle un no deal, c'est-à-dire sans accord. Oui, oui. Et ça, pour notre secteur d'activité, ça va être vraiment un moment difficile. Parce que n'oublions pas que la France viticole commercialise en premier aux États-Unis, et en second, au Royaume-Uni. Et
c'est
notre région,
c'est le deuxième
acheteur des vins français. Et pour notre région ex-Languedoc-Roussillon, l'Aude en fait partie, l'Occitanie maintenant plus largement, c'est aussi notre second marché. C'est notre second secteur de distribution à l'exportation. Donc ça veut dire que nos concurrents, et je parle à nos concurrents mondiaux, qui ont déjà des accords bilatéraux, je pense aussi à l'Afrique du Sud et au Chili, qui ont des, notamment des accords privilégiant le zéro taxe et le zéro frais douanier pour la production viticole, certainement dans un accord de libre-échange avec d'autres contreparties, sont mieux positionnés que nous dès le mois de mars pour faire face à la complexification.
Chez eux, on ne change rien.
On ne change rien et on est déjà en position de force puisque les, permettez-moi ce terme, mais les tuyaux sont déjà branchés. Mmh. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est très dangereux.
Oui. Alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Sous-entendu, enfin en filigrane, vous sous-entendiez que la France ne fait pas suffisamment entendre sa voix au niveau de l'Europe.
Je dirais, on a de la chance d'avoir, en tout cas jusqu'aux prochaines élections européennes, deux éminents représentants de l'agriculture française et de la viticulture. C'est pour le PPE Michel Dantin et pour le PSE Éric Andrieux. Deux fins stratèges qui connaissent bien, de manière très transpartisane, sont capables de s'entendre sur les objectifs. Mais ils ne sont, j'allais dire, que les représentants au sein du Conseil, du Parlement, pardon. Mais par contre, au sein du Conseil, la voix de la France n'est pas suffisamment prégnante. Et nous avons déploré l'absence d'une force politique agricole française à l'Europe. Je tiens à ce sujet à dire qu'enfin, nous avons un ministre de l'Agriculture à la hauteur de ses engagements, que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier sur le Salon de l'Agriculture à Paris, et qui a confirmé son souhait de faire peser au sein du Conseil de l'Union la voix de la France agricole, leader du monde agricole et viticole européen. Je pense que c'est une bonne nouvelle, mais je suis inquiet effectivement de l'absence qui a été la nôtre à de nombreuses reprises sur des choix stratégiques pour le secteur agricole.
Alors la bonne nouvelle, ça serait que cette fois-ci, on a un ministre de la Culture qui est à la hauteur, dites-vous.
Alors on a un ministre de l'Agriculture
qui est à la hauteur.
Et permettez-moi de rebondir parce que le jeu de mots est intéressant. On a aussi reçu le ministre de la Culture durant le Salon de l'Agriculture. Il est aussi à la hauteur des enjeux parce qu'il considère, à juste titre d'ailleurs, que la viticulture, l'agriculture font part entière du patrimoine et de l'histoire de la civilisation de ce pays et qu'à ce titre, il les défend en tant que ministre de la Culture. Donc j'allais dire, enfin, un vrai ministre de l'Agriculture qui peut aussi, avec son ministre de la Culture, certainement faire une part du chemin.
Ah oui, ça c'est relativement nouveau.
Dans
les tuyaux.
C'est nouveau, mais enfin censé.
Oui, bon, mais voilà, alors c'est deux bonnes nouvelles que vous nous annoncez, Jean-Marie Fabre. La Chambre d'agriculture, alors même si votre tâche n'est pas de vous mêler des affaires de la Chambre d'agriculture, mais on sait qu'il y a eu des élections récentes, que le président Vergne a été reconduit. Quelle est l'articulation entre une fédération comme la vôtre et la Chambre d'agriculture du département ?
D'abord, la Chambre d'agriculture, oui, c'est mon affaire. Mon affaire en tant que représentant d'une partie de la production viticole qui est majoritaire dans ce département. Et la Chambre d'agriculture, c'est un outil de développement et de performance, d'adaptation. On parle aujourd'hui beaucoup d'aléas climatiques, on parle aussi d'enjeux environnementaux, on parle de performance globale de nos entreprises. Et à ce titre, l'impôt qui est collecté au travers de la taxe foncière sur le non bâti par la Chambre d'agriculture est au service du développement agricole. Et donc, ça ne vous a pas échappé, la Chambre d'agriculture de l'Aude est depuis très longtemps présidée par des gens qui sont issus de la filière viticole dans ce département.
Et du syndicalisme notamment.
Après, ce sont des élections. Donc, il faut forcément être dans une appartenance syndicale à vocation générale. Et le vote a eu lieu, la démocratie s'est exprimée et la liste portée par la FDSEA et les JA a emporté le suffrage. J'étais vice-président de la Chambre d'agriculture sur l'ancienne mandature. Philippe Vergne a reconduit une liste dans laquelle j'étais en 4e ou 5e position. Donc je suis aussi élu, cette fois-ci, de la Chambre d'agriculture. Et la session d'installation aura lieu le 6 mars prochain. Je pense que nous serons à même de vous annoncer bientôt que Philippe Vergne, faisant candidature de la présidence, il sera soutenu par une large majorité de la session et devra normalement reconduire sur le programme que nous avons bâti en commun l'ensemble des enjeux pour les 6 années qui arrivent.
Donc ça sera la continuité.
Oui, je dirais c'est une continuité avec des enjeux nouveaux qui n'étaient peut-être pas ceux que nous avions portés et imaginés il y a 6 ans. Il y a de la continuité pour certains secteurs, je parle de la gestion de l'eau par exemple, je parle du développement et de la recherche et de l'innovation, mais il y a sur d'autres secteurs, notamment la réponse environnementale et sociétale, sur lesquels la Chambre d'agriculture doit maintenant avoir des réponses relativement importantes.
Oui, Michel, une remarque.
Oui, c'est un secteur qui il est vrai, va être confronté dans les années qui viennent à de sérieux soubresauts, quoi, hein, d'ordre politique et financier. Pour continuer le propos de M. Farr, en fait, il faut savoir que la Commission en fait, européenne a l'intention de modifier les règles en fait, de la PAC, notamment l'intention de renationaliser une grande partie des aides, ce qui voudrait dire, si l'opération effectivement aboutissait ainsi, qu'il faudrait trouver en fait, dans les budgets franco-français des sommes qui aujourd'hui sont versées par l'Europe et donc par le contribuable, entre autres, allemand en fait, et anglais, pour des montants relativement très élevés. Donc un véritable problème.
Oui. Alors c'est exact, et permettez-moi, bon, sur la PAC, c'est le grand danger où les craintes sont sur ce sujet, ce qui démontre bien la pertinence, peut-être la modernité que nous avons eue au sein de la filière viticole au moment où, effectivement, les soutiens à l'agriculture ont été modifiés il y a de ça maintenant 6 ans, et où le secteur viticole a préféré, elle, être soutenu par un programme spécifique d'aide au développement et l'investissement. Donc, en fait, nous sommes sortis du champ d'application de la PAC par l'OCM, Vitivinicole. Et donc, le budget d'aide n'est pas sur le budget général de la PAC. Voilà. Donc, ça nous permet aussi d'être plus sereins. Et je le disais tout à l'heure, nous accompagnons l'investissement sur plusieurs mesures. Vous savez que l'enveloppe dédiée à ce qu'on appelle le programme national d'aide français sur la mesure viticole, sur le programme stratégique, c'est 280 millions d'euros d'aide par an sur plusieurs mesures. Investissement, restructuration, adaptation du vignoble, promotion pays tiers, c'est-à-dire capacité commerciale, et ensuite gestion de ce qu'on appelle les effluents ou les produits dérivés de la production vitivinicole, donc presque le volet environnemental de la gestion des sous-produits. Donc on a aujourd'hui un dispositif qui est spécifique, qui n'avait pas été choisi par les autres filières agricoles. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est que pour elles, c'est une erreur. Je l'entends aussi parce que l'aide à l'hectare classique, qui est une aide au droit au produire, est devenue pour elles un sujet vital, et la bouffée d'oxygène qui souvent permet dans certains secteurs d'être non pas rentable, mais viable.
Oui, donc à suivre pour la suite.
Une petite question, simplement, monsieur Forme. J'ai observé que le plus gros bénéficiaire des subventions communautaires sur Narbonne était le CIVEL. En gros, touché 772 000 euros.
Alors le plus gros bénéficiaire sur la mesure promotion pays tiers.
Tout.
Non, sur la mesure promotion pays tiers.
C'est la première année, voilà. Oui. Alors, voilà. Derrière, évidemment, sur Narbonne, c'est bien connu. Enfin, c'est le plus gros producteur, donc c'est Bertrand avec 550. Mais vous pensez que ce genre en fait, d'aide au CIVL sera aussi maintenu dans...
Bien sûr, parce qu'on est sur un programme différencié. Et nous, on a rencontré justement la filière viticole française, le ministre de l'Agriculture, il y a 15 jours, parce que justement la tendance pourrait être de... En même temps que la renationalisation de ce qu'ils appellent le programme stratégique, c'est le fait de fusionner aussi les différents programmes spécifiques. Et nous, on a demandé au ministre de l'Agriculture de ne surtout rien changer à ce qui marche et de continuer à nous laisser libres, non pas d'accompagner la production parce qu'elle est une production, mais l'investissement, quand investissement il y a, parce que là, on est dans le cadre du développement et de la performance plutôt que dans du maintien de la production.
Voilà. Un petit mot, alors ça, on conclura là-dessus, sur l'avenir de la viticulture. Alors, il y a un certain nombre de choses. Il n'y a pas que l'Europe pour l'avenir de la viticulture. Vous parliez tout à l'heure du volet environnemental. Alors, dès qu'on parle d'environnement et d'agriculture, on parle de glyphosate. Quelle est la... Je crois que la Chambre d'agriculture a une politique déjà sur ce glyphosate.
La Chambre d'agriculture...
Comment s'y prendre ?
Encore une fois, c'est un outil de développement. Le glyphosate est une problématique générale à l'agriculture, par de la viticulture en particulier. Et quant à l'avenir de la filière viticole, moi je le considère comme étant, permettez-moi d'être optimiste, mais c'est peut-être ma nature, plutôt radieux, certes, avec des difficultés, mais nous avons un secteur qui est magique, et on a un secteur qui aujourd'hui est en capacité de faire valoir les qualités qui sont les siennes et la capacité à rendre viables nos territoires. Aménagement, emploi, attractivité touristique, quand on parle production viticole, encore une fois, on ne parle pas production uniquement d'une matière première. Et le spectre d'action ou le retour d'investissement, quand on mobilise des moyens financiers sur la filière viticole, on le fait avec une orientation à plusieurs prismes. Nous sommes le premier aménageur du territoire de cette région et nous contribuons à 80% de l'attractivité touristique. Donc quand on se limite au secteur agricole en disant c'est 15-19 milliards d'euros, c'est aussi 80% du tourisme régional. C'est aussi l'emploi. Cette région et ce département a parfois des difficultés à créer de manière durable de l'emploi. L'emploi agricole est détenu à 80% par la filière viticole, 83%. Et donc je crois que ce secteur-là n'est pas neutre. Et puis effectivement, il y a le volet environnemental auquel vous faites référence en ce moment, sur lequel on est serein, parce que l'ambition et la transition agroécologique a démarré il y a quelques années. Parfois, il faut tordre quelques habitudes pour que ça soit performant. Aujourd'hui, nous considérons que la filière viticole peut sortir du glyphosate à 3 à 5 ans, dans 80 à 90% des cas. Mmh. Des entreprises sont certifiées en bio, d'autres en haute valeur environnementale, pour 40% d'entre elles. 60% des entreprises restantes sont pour 40% d'entre elles en conversion, c'est-à-dire en certification avancée. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir, dans cette région en particulier, des gens qui ont démarré cette transition. Par contre, et je conclurai là-dessus en précisant que je soutiens les propos du président de la République à l'inauguration du Salon de l'agriculture l'autre jour, en disant attention de ne laisser personne dans l'impasse, parce qu'il y a des secteurs géographiques, techniquement, agronomiquement, économiquement, où on ne pourra pas, dans les 3 à 5 ans, leur permettre de passer cette étape du zéro glyphosate. Donc soyons vertueux, considérons que 80 à 90% de cette production va y sortir à 5 ans, si ce n'est déjà fait, et que les 10 ou 15% des personnes qui, parce que techniquement, agronomiquement ou économiquement, ne pourront pas le faire à 5 ans, mais il faudra peut-être encore les accompagner 2 ans et 3 ans de plus, le temps que des outils de substitution, que des capacités à innover leur permettent elles aussi d'y passer sans que pour autant on les déstructure.
Voilà, on conclura là-dessus. Il faudra faire quelques niches, comme on dit quelques exceptions.
Tout n'est jamais ni blanc ni noir. Il me semble que de temps en temps, il faut un peu de lucidité. Voilà. Sur ça.
Merci en tout cas, Jean-Marie Fabre, président audois de la Fédération des vignerons indépendants. Merci. Le prochain invité sera le maire de Saint-Marcel, le vice-président de l'agglo, Guillaume Heras, qui nous parlera de sa commune notamment et des problèmes d'inondation récurrents dont il a été victime il n'y a pas très très longtemps. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.